C'est une très très grande joie parce que nous aimons tous beaucoup ici le Père Nicolas, qui est un grand missionnaire et aussi un grand théologien, qui a refait toute sa théologie aussi dans le contexte de l'Asie et qui a pris vraiment au cœur sa mission au Japon. Donc, quel homme c'est ? C'est un homme extrêmement intelligent d'abord, je dirais, passionné par le travail intellectuel de pionnier un peu en théologie dans le contexte de l'Asie. C'est un penseur, mais toujours en mouvement, toujours à la recherche d'une meilleure adaptation de l'Église au monde moderne, une meilleure communication au moins avec le monde moderne, c'est-à-dire toujours très proche des réalités. C'est un homme, humainement parlant, extrêmement gentil. Il acceptera tout de suite de perdre même son temps si on lui demande un renseignement. Il ne fera pas non plus de discrimination avec les gens. Voyez, il va parler avec les gens les plus simples, se mettant vraiment à leur service complètement. Dans notre centre de formation permanente, on le faisait venir comme expert pour plusieurs groupes de laïcs qui s'intéressent aux problèmes de l'Église, aux problèmes de la foi, et toujours il est sans faire son numéro, si vous voulez, sans écraser les gens, il se mettait toujours vraiment à leur portée, et cheminant avec eux, et les écoutant, et essayant de trouver avec eux une solution, si vous voulez, aux problèmes qu'ils abordaient.
Vous évoquez un penseur, un théologien, en tout cas quelqu'un qui réfléchit tout en étant d'une grande humilité, et vous dites voilà. Que sa réflexion s'est adapté à l'Asie, qui percevait les challenges asiatiques. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu cet aspect-là ?
Enfin, quand je dis l'Asie, ça a été très longtemps, surtout le Japon et l'Est asiatique. Mais il a enseigné aussi aux Philippines, à Manille, pendant assez longtemps. En ce sens-là, disons qu'il connaît bien tous les théologiens qui travaillent en Asie. Et comme il c'est pas un théologien en chambre, c'est un théologien vraiment à l'écoute des laïcs, il connaît très bien aussi donc les réalités que vivent les chrétiens en Asie. Une réalité de gens qui sont une toute petite minorité, qui sont immergés dans un immense continent avec des religions très très anciennes et très profondes également. C'est dans ce sens-là qu'il est un homme qui a une pensée en contexte. Vous voyez.
Le défi, c'est le défi d'une minorité.
Le problème de minorité, mais aussi la grande pauvreté, si vous voulez, du sud-est asiatique et encore d'immenses régions qui sont vraiment dans une très grande pauvreté. Le problème des minorités ethniques aussi, puisque l'Église catholique s'est surtout implantée dans les minorités ethniques plus que dans les majorités, si vous voulez. Alors ça l'interpellait énormément, quoi. Il se disait, mais quel est le témoignage de l'Église dans un tel contexte ? Dans une Église qui est souvent marginalisée, une Église qui n'est pas au centre, si vous voulez. Donc il essayait d'aider les chrétiens, au moins, à répondre à ces défis.
Cette décision de la Compagnie de Jésus de les lire, est-ce que pour vous c'était une surprise ?
Oui, mais c'est-à-dire, pour moi c'est vraiment une surprise, parce que c'était un homme en plus audacieux. Bon, il a beaucoup pensé avec les communautés de base, un peu tous ces mouvements un peu marginaux qui sont dans l'Église, et qui ne sont pas forcément très bien vus. Enfin, c'est peut-être faux, tout ce qu'on imagine ici, mais on a l'impression quelquefois que quand même les théologiens, qui sont un peu audacieux comme lui, sont mal vus, si vous voulez, à Rome. Alors, pas l'image de quelqu'un qui est d'abord obéissant, mais plutôt de quelqu'un qui est audacieux, et qui est pour vraiment l'ouverture. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas obéissant, il l'est et il veut l'être au bon sens du terme, si vous voulez.
À votre avis, qu'est-ce qui justifie le choix de Rome, justement, de ce grand personnage missionnaire en Asie ?
Je pense que le pape, spécialement, a beaucoup, énormément d'intérêt vis-à-vis de l'Asie. Et quelqu'un connaissant bien les problèmes de l'Asie était certainement un bon choix pour les jésuites et pour le service des jésuites vis-à-vis de Rome. Donc c'est une richesse pour l'Église, quoi, quelqu'un qui vient de l'Asie, qui connaît bien l'Asie. En même temps, je pense que les jésuites ont hésité à prendre un autochtone, c'est-à-dire un asiatique. Ils ont peut-être préféré avoir encore un Européen né en Europe, bien ancré dans la tradition de la théologie européenne, et en même temps qu'il avait une autre expérience que l'Europe. Donc il peut faire le pont, le joint. Je pense que c'est ça qui a motivé le choix des jésuites. Quand j'ai interrogé un jésuite avant-hier, il m'a dit non, il n'y a aucune chance. C'était surtout à cause de son âge. On pensait que les jésuites auraient pris quelqu'un de beaucoup plus jeune. Moi, à mon avis, je pense que c'était l'homme du bon compromis. C'est-à-dire, on l'a pris un peu âgé, mais un homme d'expérience, un homme solide, mais en même temps qu'il y a une pensée jeune. Donc il y avait les deux côtés qui faisaient que c'était un bon compromis.
Vous qui êtes en Asie, je voulais vous demander, comment est-ce que vous vivez l'intérêt de Benoît XVI pour cette partie du monde, justement?
Benoît XVI, qui est un homme quand même extrêmement intelligent, quand il regarde le monde, quand il parle avec les évêques d'Asie, il se rend bien compte que l'Asie aura, dans les années qui viennent, un poids absolument considérable. C'est la Chine, actuellement, vous le savez mieux que moi, prend une place de plus en plus importante, non seulement dans l'économie, mais aussi dans l'équilibre du monde et la pensée aussi. Il y a une pensée chinoise, il y a une pensée... L'Inde aussi est en train de devenir un pays extrêmement important. En même temps, l'Église est encore toute petite. Elle a beaucoup de mal à trouver encore sa place dans cet immense continent. Et en même temps, le fait qu'il y a, certainement pour l'Église en Asie un avenir extrêmement riche, c'est-à-dire que finalement beaucoup de gens ont quand même une assez bonne image de l'Église, et il y a probablement une possibilité aussi pour l'évangélisation plus forte que jamais en Asie. Je pense que dans les 20 années qui viennent, les enjeux de l'évangélisation vont se jouer surtout en Asie. Il n'y aura pas forcément un afflux de conversion, mais il y aura un travail en profondeur qui va se réaliser dans ce continent. L'Église, je pense, peut répondre à l'attente de beaucoup, beaucoup d'Asiatiques aujourd'hui qui sont en recherche actuellement d'une spiritualité. Enfin, les religions traditionnelles, si vous voulez, ne satisfont pas toujours les gens. Donc beaucoup de gens ont inconsciemment peut-être une certaine attente vis-à-vis de l'Église.